The French Connection.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 291 de La French Connection. Cette semaine, on est avec Francis dans sa belle pièce rose.
Bonsoir. Sexe et confidence ce soir.
Yes, avec Jacques.
Bonjour tout le monde.
Hey, ça goûte quoi le vinaigre de Pâques? OK. C'est avec Steve.
Bonjour, bonsoir.
Et comme invité, Eric. Salut Eric, ça va bien?
On t'entend pas?
On t'entend pas, ça part bien. Il nous fait un Steve en partant.
Bonsoir, bonsoir.
Hey, ça fait des années que c'est pas arrivé.
Merci. Ça fait au moins un an, je pense. Hein? Ou c'est au bye-bye, je me souviens plus. Non, c'était Francis au bye-bye. Ouais. Hey, on commence avec nos shameless plugs, plein de conférences qui s'en viennent. On a le AltSecCon à Halifax les 9 et 10 avril. Est-ce qu'il y en a qui y vont, messieurs?
Non, je ne vais pas cette année.
Non. Okay. Pour ceux qui y vont, have fun. J'aimerais ça y aller à un moment donné. Ouais, Channel Next, c'est vraiment cool. Ça vaut la peine si vous voulez visiter Halifax. Channel Next East, 13 et 14 avril. On est quelques-uns de nous qui vont présenter là. J'y serai, Jacques y sera. Je pense Eric aussi, t'es là.
Ouais, ils m'ont demandé d'être un panel. Là. Je ne sais pas trop quoi.
J'ai aucune idée c'est quoi. Je fais une présentation, puis après ça, je suis pas mal certain qu'on m'a invité sur un panel, mais je ne sais même pas quoi.
Il y a tes deux panels, je pense qu'on est sur les mêmes panels, en tout cas.
Ah ouais? On parle de quoi?
Ouais, là, pour savoir quelle journée y aller, pour être sûr que t'es là.
Ouais, ben, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai fait un suivi. Je dis, si vous ne me confirmez rien, j'irai pas. Puis ils m'ont dit, non, t'es déjà confirmé. Fait qu'on est 8 sur un panel, fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va.
Et ça va être un gros panel.
Ça, c'est la même affaire qu'il sec, là.
Ben, c'est pas la même affaire, mais...
sur le panel, là.
Ouais, je sais pas, hein, tu sais, si on est 8, ça dure 45 minutes, une heure, on va parler 2 minutes et 30 secondes chaque, là.
Ben moi, j'ai failli y aller, j'étais quasiment confirmé, finalement, quand j'ai envoyé ma soumission comme conférencier, finalement, on dit non, on n'a pas d'argent.
On en masse de vous autres.
Moi non plus, ils m'ont dit la même affaire, Francis.
Ouais, t'inquiète. Ils nous ont tout dit.
C'est-à-dire que nous autres, on est des idounes, on fait ça pour le... fait ça pour la gloire.
Ah! On n'a pas dit ça, là! On n'aurait jamais osé dire
ça! On était supposé s'entendre, de demander de faire un plan d'attaque pour ça, là, puis être standardisé, comment qu'on fait ça, parce que moi aussi...
Ça va pas une espèce d'union des artistes, des experts, je sais pas.
C'est ça. Non, ça va être le fun. On va aller voir là-bas. Conférence CyberEco, 28-29 avril. Certification à Pro Défense. C'est quoi ça, messieurs? 12 mai.
C'est la conférence qui se veut d'être quand même assez technique, qui va davantage avancer sur le sujet de protéger et d'appliquer une meilleure cybersécurité envers les contrats de défense. J'étais la semaine passée avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Gros événement pour jaser. Hey, ça serait le fun de faire quelque chose. Et là, le 12, ça va être voici comment le faire. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus technique, mais au moins, les entrepreneurs qui veulent faire affaire dans le domaine de la défense canadien-américain, ils vont savoir davantage que c'est. Puis d'ailleurs, en primeur, on a ceux et celles qui s'organisent du programme à Ottawa, du programme canadien de la certification en cybersécurité, qui vont être présents pour dire les vraies affaires. Fait que ça de même. Ça va être un bon rendez-vous.
Fun. Après ça, NordSec le 11 au 17, la matinée conférence CPQ le 29 mai, le consortium le 16 à quelque chose juin. Et ITSec qui est le prochain, qui est la semaine prochaine, que nous y serons presque tous. On donne les conférences, puis le podcast va être là.
Le podcast est confirmé.
Podcast est confirmé, messieurs, mais j'ai pas l'heure encore, puis le format, mais ça s'en vient. Mais c'est le 21 au soir.
J'ai l'impression cette année que je vais à des conférences ou à des événements comme ça, puis je sais pas trop ce que je fais. Là. Fait que j'espère que quelqu'un va me prendre par la main, m'amener
à mes... Bien
par
le flow, hein, c'est ça?
Pouvez-vous me dire ce que je fais ici?
On va comment?
Je vais où, là? Je fais quoi?
Tu sais, quand tu vois ton nom dans le programme, genre, c'est parce qu'il faut que tu y ailles parler. Hein?
C'est ça. Je vais aller à l'hôtel, je vais être là, je me trouve un sujet. Non, en fait, je vais parler de conformité, c'est comme quoi c'est une opportunité d'affaires. Puis là, un petit peu de pétage de bretelles, cordonnier bien chaussé. Ouais, j'ai passé mon cybersécuritaire au Canada. Le temps que je parle là, de ça, en maison. Et je suis bien content de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai compris des entreprises et j'ai encore plusieurs dossiers sur mon assiette. En passant, je pensais que Steve serait là-dedans, mais je fais partie du comité là, qui est en train de faire la révision de la norme.
Parce que j'ai vu passer, c'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour, ils sont en train de réviser quoi. Ouais. Je t'inscris, mais mon horaire est très limité, là, le temps que je peux donner là.
Ben, ça fait deux appels d'une heure qu'on a avec la gang, puis il nous en reste pas un autre parce qu'on discute beaucoup, c'est intéressant, c'est le fun, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a une bonne gang. Là. Il y avait à peu près, à un moment donné, dans le premier appel, surtout 20 à 30 personnes, et j'ai posé la question, je dis, est-ce que vous voyez plus de demandes récemment là, dans la norme CAN DGSI 104 ou cyber sécuritaire, ils m'ont tous répondu tout de suite oui. Comme une recrudescence, là, la demande, on dirait que ça commence à se faire connaître. Les gens le demandent, les compagnies le demandent. Fait que c'est bon de voir ça. Là, les
fois t'en parles beaucoup, Jacques. Là, t'en parlé sur beaucoup de tribunes.
Oui, mais à l'extérieur, quand même, Canada-wide, là, qu'est-ce que Jacques dit? C'est ça le reflet. Parce que oui, parce que si d'entendre parler, il faut que tu aies un certif côté défense, CMMC, PCCC. Mais quand tu n'as pas rapport au domaine de la défense, ben qu'est-ce qui reste alentour? Oui, ça l'est, le CAN DGSI 104, le meilleur moyen de te faire reconnaître comme quoi que tu es à ton affaire. Et là, de plus en plus, comme il dit Jacques, le programme a maturé, le programme se fait connaître, mais tout le monde dit, hey, tu devrais être certifié, surtout les assureurs, parce que l'assurance cyber-risque, tu ne peux pas rentrer là gratis. Faut que tu montres que tu fais quelque chose de semblant, que tu sais où tu t'en vas avec tes affaires, parce que sinon, les primes vont être tellement élevées que c'est pas assurable. Alors, c'est comme ça que je crois que les gens ils ont une recrudescence d'aller vers cette certification.
C'est-tu connu en dehors du Québec autant? Parce que je sais que, comme je dis, c'est vrai que
c'est pas... Il y a plusieurs personnes là, de l'Ontario, du Manitoba... Puis, ils me disent tout, c'est tous des gens comme moi là, qui pratiquent, qui accompagnent des entreprises, puis ils me disent que oui, ils ont plus de demandes cette année. Là. Fait que c'est bon.
En tout cas, au Québec, tu es un des porte-parole, parce que on entend quand même relativement rarement parler de ça, mais tu sais, toi, tu. Fait que,
il y a eu Steve Lavoie aussi qui a été pas mal vocal là-dessus.
Tout à fait.
Steve.
Yeah. Ben, mon côté, pour vous préparer à cette chose-là, c'est mon talk. C'est Tabletop Exercise. Fait que comment vous préparer ou simuler un incident. Je viendrai voir ça. Puis Eric, ou c'est qui d'autre qui parle là, Francis?
Excusez-moi. Moi, j'en ai deux. J'ai une conférence qui est présentée par, c'est quoi le nom de la compagnie? Unirecycle. Une conférence sur le cycle de vie des données, la destruction des données. Puis je vais faire des démonstrations sur la scène, ça c'est intéressant. Puis l'autre conférence est plus au niveau, on va être dans l'éthique, on va être plus dans les questions que d'autres choses, là, mais tout ce qui est toutes les problématiques liées à l'IA au point de vue éthique, point de vue valeur humaine, relations humaines, fait qu'on va être là-dedans. Là. Fait que l'idée, c'est de brasser un peu les idées.
Oui, je vais être là aussi, les amis, j'ai été confirmé.
Ah oui, good.
Yes!
Puis toi, tu parles ou tu l'as appris aussi sur le tas?
Non.
Ils t'ont confirmé dans le programme.
Ouais, c'est ça. Là. Mais vois-tu, moi, ça va être quand l'IA défend nos mondes numériques, elle ne fait pas détecter les attaques, elle redéfinit la cybersécurité. Donc, la question, c'est est-ce que. Voyons, nous. Comment j'ai dit ça, donc? Ouais, c'est ça. Qui contrôle l'IA? On va-tu faire quelque chose avec ça? Donc, j'aurais checké ma box de parler d'IA, pas pire. Mais en même temps, là, c'est de remettre les choses en perspective. Là. C'est-tu encore une fois le David Bullitt?
J'applaudis.
Au moins, on va être là, les amis, hein, parce que le soir, le mardi, c'est le talk, les talks principaux. Le soir, c'est le 5 à 7 avec le French Connection qu'on va parler. Ouais. Puis après ça, il y a, je pense, le panel là, sur lequel vous êtes pas mal tous impliqués, sauf Eric puis moi, ben c'est le lendemain. Fait qu'Eric, en passant, je vais avoir du popcorn pour nous deux, puis on va être assis front and center pour les regarder.
Trois, moi, je suis pas là-dessus, moi, là. Fait que je vous suis sur le panel. Ouais, puis le Hackfest fait le CTF qui est le 20 au soir. Fait que la première journée de formation, Hackfest fait un mini CTF. On a repris la main d'Eric.
Ah, ça, j'allais dire, y a-tu quelque chose de physique un peu comme l'année passée ou non? Oui, non?
Non, c'était trop dernière minute.
Ça marche pas.
OK. Ils sont décédés à la dernière minute.
Ouais. Je vais sûrement apporter les lockpicks pareil, mais je pense pas qu'ils vont compter en termes de pointage. Fait que ça risque d'être ça.
Sortir notre bon storage, tu sais, ça prend un camion.
Je forcerai pas la bombe de 12 pieds.
Avec la guerre en Iran, je suis pas sûr que je me promènerais avec ta bombe dans un trailer. Il y a un satellite.
Il
Il va te scanner à travers. À un moment donné, tu vas voir arriver quelque chose du ciel.
Mais voyons, il y a un flash.
Il y a un flash.
Fait que, ben ouais, vous viendrez nous parler là-bas. Ça risque d'être super le fun. Et on commence ça en nouvelle locale. Bon, commençons avec qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Pourquoi ne pas parler de donnéesquebec.ca, la belle gestion de nos gouvernements. J'ai donné quelques entrevues. Je ne sais pas si, monsieur, vous en avez donné aussi, mais oui. La principale, tu en as fait au Journal de Québec, je pense, mais la principale chose, c'est que c'est banal, mais l'impact n'est pas banal. Puis, tu sais, si quelque chose de banal comme ça est mal géré, ben, on comprend pourquoi les satellites arrivent. Ben, on comprend d'autres choses aussi, là, mais... Bon, ça a de l'impact. Mais non,
c'est un peu une grosse, un gros détour, mais effectivement, tu sais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un manque de professionnalisme dans l'application de, de ces moyens administratifs minimales. Moyens administratifs lesquels? Ben, de te faire avertir que ton certificat passe out ou bien qu'une inscription n'a pas été bien faite auprès de ton fournisseur. Je veux dire, c'est toutes des choses administratives prévenables. Ce n'est pas une cyberattaque qui est arrivée. Ce n'est pas une pénétration là, super-duper qui ont passé par un 0D pour avoir accès. C'est de la manipulation administrative qui n'a tout simplement pas bien été faite. Fait que de cette façon-là, il faut peut-être reviser les façons de faire, les amis. Il existe des outils gratis pour surveiller tout ça. Et après ça, ben, le long congé Pascal, il faut faire les checks avant d'aller en congé. Fait que là, ça va patiner demain. Ouais. Puis là, le MCN qui revient d'Europe, là, ça va tout être froissé. Là, en tout cas, ça va courir.
C'est le domaine qui a expiré. Là. C'est ça le problème, le domaine expiré.
Ouais, logiquement, c'est la carte de crédit qui a expiré. Ouais. Ou ils ont oublié de peser sur le piton auto-renew. Puis, ben, vu que c'était le long congé, ben, c'est ça. Ils étaient chez eux, puis ils n'ont pas checké leur affaire.
Ouais. Là, mais tant que le certificat, ça a été renouvelé hier en passant, hein?
Oui, c'est ça. Puis là, quand je checkais le Wiz, il y a aussi eu un renew hier du nom de domaine.
C'est OK.
Fait que tout s'est passé hier, puis le site web est revenu en ligne en après-midi à un moment donné. Là.
OK. Ben, moi, je sais que je rêve en courant. Regarde la liste des noms des sous-domaines que moi, je trouvais, puis qu'on regarde juste les d'où viennent les certificats ou ben non, d'où viennent les enregistrements. C'est comme un mélange de toutes les compagnies imaginables. T'sais. Fait que je rêve en couleur parce que j'aurais aimé ça que ça soit oui. Plus puré, puis qu'il n'y ait pas du Walmart quasiment qui est comme domain registrar d'inscrits dans certains sous-domaines.
Ouais. Ben ça, c'est un problème, là, parce que même en entreprise, là, moyennement grande, quand tu te ramasses avec 2-3 registers, tu sais plus tes sites sont où, puis quelle équipe qui les gère, qui a accès à quoi. Là, je pense que ce que tu as scanné, c'est pas 2-3, là. Ça doit être une vingtaine, là, peut-être plus. Là.
Il y en a une méchante gang, puis ça.
Ouais, non. Fait que c'est sûr qu'ils savent pas sont où leur affaire, là. C'est sûr qu'il y a ce problème-là. Plus, si tu sais pas son où, ben, tu sais pas s'il y a tout renew, quelle carte de crédit qui est où, qui a accès, qui gère le DNS, hey, ça doit être.
Ben, c'est ça. Beau. Surtout des grandes organisations comme ça, là, t'as un roulement de personnel quand même là-dedans. Fait qu'il faut que les procédures soient étanches pour justement que tu sois pas surpris par des incidents comme ça. Puis comme je nommais, tu sais, dans le cas de Données Québec, là, c'est l'MSP qui a acheté le domaine.
Oups.
Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui, là, mais en tout cas, il y a sûrement une raison logique, mais...
Ça revient à l'inventaire. Fait qu'ils n'ont clairement pas d'inventaire. S'il y avait de l'inventaire, bien, il y aurait quand même des outils qu'ils pogneraient. T'sais, ils ont acheté des licences sur des produits là, qui font des scans.
Ouais.
Il y aurait eu un heads-up.
Oui, mais on n'est pas dans la grosse gestion de haut niveau. Là. C'est quand même des trucs qui sont relativement de base.
Je ne sais pas si vous
Francis. Mais c'était pas le MCN qui avait eu un truc qui avait expiré, là. Il avait pris une espèce de truc open source avec une petite licence de quelque chose, puis elle ça avait arrêté de marcher.
Ça commence de même, là, c'est des développements stand-by, là, puis après ça, là.
Une fois qu'ils utilisent open source.
Petite anecdote, je veux dire, moi, comme beaucoup d'MSP au Québec, j'utilise souvent, Eric, tu connais ça, IT Glue, hein, pour documenter mes clients, puis tu mets les domaines là-dedans. Moi, ça m'avertit 3 mois en avance, là. Hey! Le domaine Eric, là, il va expirer dans 3 mois. Fait que là, typiquement, moi, je regarde dans des consoles DNS de mes clients, voir si, effectivement, ils ont mis le auto-renew. La plupart du temps, oui. Mais là, j'en sois un. Faudrait août, septembre dernier. Puis, un de mes clients qui, justement, ça va expirer dans 3 mois. Puis, il est avec Bell, hein, bellhosting.ca. Fait que là, je regarde dans la console qui date d'à peu près 1996-97. Nulle part dans la console, est-ce que tu as accès à la facturation, le billing? Est-ce que tu peux renouveler automatiquement? Fait que je contacte mon client, je dis, garde, je pense qu'il va falloir que tu appelles Bell pour leur demander là, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois. Fait qu'il appelle et puis on le rassure. Ben oui, monsieur, faites-vous-en pas. Tout est fait, tout est en place. Ça va se renouveler automatiquement. Il n'y a pas de problème. Inquiétez-vous pas. Hey, on attend les doigts croisés, la journée de l'expiration. Puis ce matin-là, il m'appelle en panique. Il n'y a plus rien qui marche.
Ah oui, le script COBOL n'a pas roulé.
Il n'a pas mis la bonne, carte perforée. C'est
ça. Plus de domaine, plus de courriel, plus de site web. C'était comme, voyons donc. Là, il appelle Bell, puis il est encore en panique. Ah oui, monsieur, on vous arrange ça. Mais tu sais, c'est comme, voyons donc, sacrement. Bell, c'est avancé, revend 2026, là. C'est incroyable, incroyable. Le code COBOL, oui, ça ne m'étonnerait pas du tout, Éric.
Un système batch, là, même en Windows.
Ouais,
là, c'est un truc qui roule le soir.
Qui roule en Windows, je ne sais pas. En DOS 3.1. Ouais,
c'est ouais. WSDO Warp qui roule encore jusqu'à que passe chez Bell, c'est sûr. T'sais.
De quoi?
Du WSDO Warp qui roule encore, c'est sûr. Là,
ouais. Prochain sujet. Un rapport de 4DS.ca, Monsieur Courteau, un ancien de mes collègues, un ancien collègue, qui a sorti le rapport de la souveraineté des données au Québec. Steve, parle-nous de ça, c'était quand même intéressant.
Bien, c'est quand même intéressant, oui, parce que c'est un état des lieux sur cette fameuse, comment je t'en dirais, dont le sujet de l'heure, qui est la souveraineté des données. Fait que les souverainetés des données, en partant, ça fait quand même pas mal un an plus qu'on en jase partout ici. Je participais à plusieurs conférences sur le sujet. Puis, ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'est juste, faire la définition. Qu'est-ce qu'on s'attend d'une définition de qu'est-ce que la souveraineté des données? C'est juste... Puis là, on va le dire, le motivateur, ça a été les gens qui ont été pris de panique de savoir qu'il existe un Cloud Act depuis 2018, mais que là, avec les façons de travailler, la nouvelle administration du 47e président, il pourrait faire en sorte qu'il pourrait venir voler nos données. Bon, ça commence avec aussi une explication. Le Cloud Act de 2018, ce n'est pas une autorisation d'aller dans le buffet puis aller piéger dans les données canadiennes parce qu'ils sont hébergés chez AWS, chez Google, chez Apple, puis tout ça. Non, c'est juste que la façon de faire chez nos voisins du Sud maintenant laisse à désirer parce que c'est tout un processus judiciaire pareil. Il faut qu'il y ait chez un juge de paix avec un mandat puis des choses précises qu'ils vont aller chercher, comme le ferait la GRC ici dans une enquête envers quelqu'un puis que ces informations sont en sol canadien. Alors, le processus judiciaire n'est pas différent au Sud d'ici, à part l'intention. Cependant, ça vaut-il la peine d'aller tout migrer vers une solution exclusivement canadienne? Autrement dit, on peut tous se dire, oui, on va avoir des hébergeurs ici canadiens, nos données seront là, mais est-ce que les services vont être aussi compétitifs, pour exemple, protéger un site web canadien contre des attaques de déni de service? Ben non, Cloudflare va demeurer, puis Akamai et les autres vont demeurer en avant-plan parce qu'ils l'ont, l'expérience, l'infrastructure.
Tout est parfait, Steve, tout est parfait.
Ben oui, je sais pas, mais là, tu sais, je mets juste un état des lieux, puis pour sais. Dire que, ben, en tout cas, le rapport, il en fait état. Puis c'est ça qu'il dit, tu sais, en même temps, Micrologique, il est pris à mal un petit peu dans le rapport parce que, justement, il fait affaire avec des compagnies américaines pour faire son travail quotidien, tu sais, puis sa bureautique, etc. Est-ce qu'on peut tout ramener ça en État canadien? J'en parlais à la Chambre de commerce la semaine passée. L'Europe, l'Allemagne a décidé de le faire, le move, eux autres, ils sacent Microsoft dehors, ils s'en vont aller.
C'est une stratégie, par exemple. Tu sais, il faut
mais c'est ça, mais c'est une décision collective avec un leadership.
Avec un plan et une vision. Exact. Puis, tu sais, la France puis plusieurs pays en Europe ont décidé de faire ça dans les dernières années, même avant la pandémie.
Oui, mais là, ça s'est accentué pour que ça se concrétise.
Oui, ça va plus vite, c'est clair, tu as raison. Oui. Mais ça reste que c'est un projet de société. C'est pas comme, bon, go, on migre tout, puis on se débarrasse.
Non, l'UE, ça lui coûte 220 millions d'euros de licence Microsoft par année.
Ah non,
c'est motivateur, ça, là, aussi. Là.
Oui. En réalité, ça veut dire... Tu garoches l'argent local. Oui, c'est bon.
Puis là, ils ont décidé d'avoir une vision. Hein. Imagine, quelque chose qu'on n'a pas pu voir. Ils ont une vision à long terme. Tu sais.
Non, moi, c'est dans ton rapport. Le gouvernement, Éric, il est pogné de glaucome. Tu as raison, le calice.
Le glaucome. Dans ton rapport, ça parlait-tu des dépendances? Parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui retombent sur l'intelligence artificielle qui est vraiment contrôlée par, un, par le côté américain. Fait que s'ils décideraient de mettre certaines fonctionnalités export control puis de faire, de la, de faire du choking, nous autres, on a une dépendance comme, comme industrie, pas nous, nous, là, je veux dire, un pays, on, ça va finir par avoir une dépendance, tout le monde devient un peu légume, là, tout le monde sort de ChatGPT.
Mais là, je veux dire, tout le monde est rendu dépendant, là.
Mais si tu choques ça et tu dis les versions export vont être limitées du jour au lendemain, ben là, ça va créer un méchant problème pour les industries qui ont une grande dépendance vers l'IA qui est hébergée tout aux États-Unis.
Là. Non, mais Eric, tu le sais, on est les numéro un de l'IA au monde. Tout est ici, on a les cerveaux, la reconnaissance. Tu sais, là, il y en a qui ont encore ça en tête.
Aucune compagnie qui roule.
C'est juste ici que ça se passe, l'IA, là. Ouais. Ils ne réalisent pas, là, comme tu viens de décrire, que c'est ailleurs dans le monde. Puis que le computer
Cloud power, Code, là, c'est 100% québécois. Là. C'est malade. Là.
Ouais, non, non.
Tout le monde
utilise ça. Je sais qu'il y en a qui ont pas une copie de Cloud Code la semaine passée. Là, parce qu'il y a eu
une
C'était quand même le front-end. Ouais. Ouais.
Dans le rapport, ce qui est ça qui est le fun, ça démontre justement la présence des adresses IP de certains services qui sont utilisés tant en Amérique du Nord qu'au Canada et qu'ailleurs dans le monde, tu sais, comme nationalité des hébergeurs web ou mandataires, ben, au gouvernement du Québec, ils utilisent à 30.25% sont canadiens. Le restant, le 55% et plus, c'est aux États-Unis puis elle reste ailleurs dans le monde.
Fait ouais, que, revenons sur une présentation qui a eu lieu au Hackfest. Pour pas dire grand-chose de plus. Mais pourquoi les maudits appels d'offres n'ont pas une priorité sur les systèmes
et
applications locales si elles répondent à la, aux requis techniques? Puis ça, le requis technique, il faut le dire, il faut que le gouvernement commence à faire des maudites preuves de concept. Ça va, là, les sacrements de papier qui disent « oui, on est conforme sur papier ». Non, testez-les. Puis oui, ça prend 3 mois. Prenez 3 putains de mois.
Mais ça prend des
J'ai pas travaillé dans une compagnie qu'on faisait pas des 1 à 3 mois de tests. Parce que tu t'en vas dépenser 200-300 millions, puis tu fais pas de tests, c'est vraiment de l'imbécilité. Là. C'est n'importe quoi.
C'est probablement ça prendrait de la vision, ça, on l'a clairement pas. Parce que c'est toujours
ouais, là, on vient de le dire.
Élection. Fait que le classique d'élection, ben, c'est toujours je vois rien que jusqu'à la prochaine élection. Puis la autre affaire, c'est que ça prendrait. Il faut arrêter de donner. Je suis un sous-traitant, moi, je veux pas. Là, c'est le même que je me fais vivre. Mais je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de donner de l'argent à des entreprises éparpillées un peu tout partout, surtout les grosses entreprises. On a le talent au Québec. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'on n'embaucherait pas du monde, les mettre sur le payroll, le payer qu'est-ce que ça vaut. Oui, ça serait des salaires de 200 000 par année. Mais se monter un noyau technologique pour de vrai, puis arrêter d'envoyer des contrats à des entreprises à 3, 4, 5, 6 lettres ou whatever qui vont nous enculer all the way through.
Parce que c'est oui, puis ils mettent des juniors après un prix.
Oui, c'est pas messieurs, ça ne peut pas marcher, votre travail. Arrêtez, là. Non, mais moi, je l'ai été au gouvernement, là. Puis tu sais, à un moment donné, là.
Ça compte pas, là.
Non, mais comment qu'on voit des cas, là? À un moment donné, nous autres, à la Sûreté du Québec, on avait un expert en ADN pour l'ensemble du Québec.
Si c'est un problème.
À un moment donné, il a dit quelque chose en joke à son boss. Ah, je pense que je vais crisser mon camp à ma retraite. Et son boss a dit, ça serait une bonne idée. Le gars, il a été frustré de ça et avec raison. Le lendemain, il n'est pas rentré. C'est fini, manger de la merde. Est-ce que vous pensez que le boss en question a rappelé l'employé pour dire, hey, je m'excuse? Non, si on est dans les égaux. Et, hey, si tu payes du monde 200 000, là, ça veut dire que tu constates que c'est des spécialistes, c'est des experts. Ça veut dire que tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Mais si toi, ça ne te tente pas de les écouter parce que c'est toi le boss, puis parce que t'es le boss, tu connais ça, tu ne vas pas avoir du monde à 200 000.
Ah non, mais c'est clair, tu as raison.
On est dans cette dynamique-là tout le temps. Et à un moment donné, il va peut-être falloir... Moi, je regarde les structures quand on nomme des gens au gouvernement. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que dans l'évaluation du cadre, là, qu'il y ait une partie de l'évaluation qui vienne de ses employés. Parce que le cadre, oui, il y a un job de livrer le message d'en haut, mais il y a aussi une grosse job de supporter la base pour être capable d'atteindre la mission, de rejoindre la mission de l'organisation, de l'entreprise. Mais non, on l'évalue juste à partir d'en haut.
Du common sense, t'es-tu en train de nous dire qu'il faut faire les choses normalement?
Ouais, mais regarde, vous êtes tous les deux peut-être des cas vécus d'un bel exemple de ça. Quand il y a de la compétence qui arrive dans un ministère, ça ne dure pas longtemps.
Parce que t'es un danger, t'es une menace.
Là, t'as un peu j'ai un son pour ça.
Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 14-15 ans, j'ai travaillé avec une place qui faisait de la mécanique. Puis, il y avait un gars qui s'appelait Edmond Favreau, c'est mon boss. il était moins payé que les mécaniciens. Puis la première question, je lui demande pourquoi. Ben, il dit, j'ai pas les mains sales, mais là, c'est pas moi qui fais la job. Puis il embauchait du monde plus compétent que lui pour faire la job. Puis c'est ça la base de tout. Un bon gestionnaire, il veut pas être. Moi, je veux pas être le meilleur codeur. Là. J'ai deux développeurs dans mon équipe. Là, puis moi, je connais rien à comparer aux autres. Puis je suis super heureux de ça.
Ouais. Un gestionnaire, c'est supposé d'utiliser son équipe, pas décider à leur place. Les décisions viennent de l'équipe. Et ça n'existe pas au gouvernement, ça.
Quand tu te sens comme gestionnaire, quand tu te sens diminué, là, parce que tout le monde est compétent autour de toi, la seule façon qu'il lui reste, c'est comme une victime qui est en train de se noyer, va s'accrocher sur tout pour passer par-dessus. Puis après ça, va rejaillir, puis c'est juste lui qui va survivre.
Ouais, je sais, ça, ça serait bon pour tous les gens qui travaillent là. Finalement, c'est Enlarge Your Penis. Là, ils vendent une petite pompe. Là, puis c'est
pour c'est gratis par email. Faut juste tu réponds.
Faut juste tu réponds.
Faut juste tu réponds. Non, mais
on va avoir des débats quand même longtemps. Là, t'sais. Puis t'sais, on parle de souveraineté numérique. À un moment donné, il faut comprendre aussi, puis on en a déjà parlé sur le podcast. La souveraineté numérique absolue, on peut pas atteindre ça au Québec. Là, okay? Oubliez non, ça. Tu sais, quand on dit qu'il y a des processeurs Intel, je me rappelle plus c'est quoi le nom du protocole, là, mais tu peux démarrer l'ordinateur à distance. Ton processeur est comme toujours un peu à activer. Ouais. Puis tu es capable d'activer, de démarrer. Mais ben ça, tu contrôles pas ça. Là. Fait que quand tu arrêtes ton propre système d'exploitation québécois que tu viens d'inventer ou canadien, ben, fait tu vas avoir un certain niveau de souveraineté numérique que tu peux atteindre. Mais c'est, là, on a la vision souvent en termes de quantité de données. Mais il ne faut pas oublier aussi, puis je pense qu'Éric en a parlé tantôt un peu avec l'IA, mais les technologies aussi, là. Moi, je le répète, je le dis partout, là. Quand tu es rendu que nos entreprises, elles n'ont comme vitrine technologique que Facebook, la journée que Facebook décide de couper le Canada, asti, tu n'existes plus, là.
Vas-y,
ben, c'est plus sur bien des niveaux parce que le monde se sert de Facebook. Oui, vas-y, Steve. China has joined the chat.
Ce que je voulais amener, Francis, aussi, ben, moi, je le vois aussi comme la souveraineté numérique, c'est vraiment là, l'hébergement des données, le traitement. Oui, il va se faire local, oui, il va se faire avec une technologie étrangère. Mais fondamentalement, comment tu peux protéger tes processus? Parce qu'on sait que la donnée, elle a trois états, là, en traitement, en transmission puis en repos. Fait que si on peut gérer la donnée souveraine dans ces trois états-là, je crois qu'on va être gagnant, on va être davantage mieux positionné. Ben oui. Mais c'est impossible, comme tu dis, de dire on va être capable, on va être capable de faire une manufacture de chips que pour nos 6 millions d'utilisateurs au Québec, ça va être
on n'est même pas capable d'avoir un service d'Interact qui marche pas en canadien si Rogers tombe sur... fait que on a du millage à faire là, avant d'être...
Mais il y a quand même des niveaux qu'on peut atteindre.
Ouais, oui. C'est pas juste les données. Là. Je comprends qu'il y a les données, mais là, je disais récemment là, que l'Europe, ils sont en train de déployer ou vont déployer quelque chose qui s'appelle EuroOffice. Là. Parce que là, Microsoft bad, là, puis c'est américain, fait qu'on va avoir notre propre... C'est quoi? Là, vous allez trouver un remplacement pour PowerPoint, Excel, puis Word. Vous allez avoir des centres de données. Vous avez appelé ça Microsoft 365 européen. Non, je m'excuse. C'est pas juste ça. Là. C'est pas juste les données. C'est tout le contrôle de qui a accès à ces données-là. Puis moi qui travaille quotidiennement dans le monde Microsoft 365, tous les systèmes, tout l'écosystème d'authentification et de protection d'accès qui est en arrière de ça, les règles d'accès conditionnelles, attack surface reduction rule, tout ça, là, je m'excuse, vous êtes loin en sacrement en arrière de Microsoft. Là. Vous n'allez jamais faire ça dans votre centre de données européen. Là.
Moi, je crois qu'ils vont être capables, là, je te le dis, là, là-dessus, Jacques, là, on peut se gager une petite consommation après conférence. Mais je le vois, là, j'ai... Merci. Ça va faire mal à la tête le lendemain matin. Mais EuroOffice, c'est un vrai projet là, que tu as dit. Ça s'en vient en parallèle avec les initiatives. Chaque pays veut faire une initiative, mais ultimement, je crois que l'administration européenne, la Commission européenne, va faire en sorte qu'ils vont l'offrir. L'Allemagne, que je disais tantôt avec LibreOffice, ben, ils ont aussi un cloud souverain allemand avec lequel ils vont conjuguer puis ils vont dire « voici la norme nationale ». Fait que ça rejoint qu'est-ce qu'on dit. Quand tu as une vision commune, tu as des ressources qui viennent se greffer, bye, là, tu avances. Mais sinon, oubliez ça.
Non, non, mais moi, là, je ne sais pas, mais moi, il n'y a rien qui m'excite dans Microsoft, là. Est-ce que c'est normal qu'en 2026... Non, non, mais en 2026... Moi, quand j'étais jeune, là, on avait Word. On avait Word Perfect.
Non, Word on avait... Je ne regardais pas Microsoft non plus.
Ah, non, non, mais ben non, c'était le catalogue Sears à l'époque. Mais ça risque qu'on avait bien du stock différent. Il y avait de la compétition.
Oui.
Là, là, pourquoi que c'est rendu? Ah non, dès que je fais du traitement de texte, je fais Word. Ben, puis là, c'est intégré avec OneDrive, SkyDrive. Puis là, tabarnak, reprenez le contrôle de vos données, utilisez LibreOffice, gérez vos accès à part, stockez ça à d'autres. Non, non, on intègre tout ça dans un moton. La journée que Microsoft, là, ils vont nous faire un solide de crash d'en face, là, et on va avoir l'air de des ticounes. On a un single point of failure qui est gros comme le soleil.
Ben, c'est ça que je disais, ces médias sociaux, là, c'est Microsoft qui fait l'administration du Canada présentement.
Ben, c'est ça.
M365 qui était à tous les niveaux des paliers de gouvernance. Puis on l'avait, la souveraineté numérique, comme tu as décrit là, au début des années 2000, ça s'appelait Corel. Au oui. Canada, là, à Défense nationale, on avait eu la suite Corel.
Qui
avait
la GRC, c'était Corel.
Hey, avec Word Perfect, puis toutes ces affaires-là, c'était des joyaux technologiques du temps. Mais tu sais, on l'avait. Puis le Corel, là, quand il a grossi à Ottawa, c'est à cause de ça que le gouvernement avait cette suite de logiciels bureautiques, puis ça fonctionnait. Jusqu'à temps que Microsoft, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le lit avec le gouvernement, mais ils ont été convaincants en estifi parce que Corel a pris le bord. Ouais, mais ben, je ne sais pas comment ils ont survécu depuis, là, mais des appels d'offres, là, ils ont-tu renouvelé Corel? Ils ont-tu été en mesure de compétitionner contre Microsoft? L'histoire ne le dit pas.
Steve, 95% des gens qui utilisent un traitement de texte dans la vie, là, 95%, tu mets d'un bord Notepad. Pas Notepad++, hostie, Notepad tout court. Puis tu mets Word de l'autre bord. La quasi-totalité des utilisateurs là, sont bien plus proches hostie, de Notepad que de Word. Ils ne connaissent pas les macros. Et quand... Là, tu te dis, mais pourquoi on paye pour des licences gigantesques d'un outil que les gens utilisent à 8% et 3/4? Puis quand ils activent un macro qui n'était pas supposé, elles là sont fourrées. Dans tout le gouvernement, tu essaies de trouver quelqu'un pour trouver la solution. Finalement, c'est plus compliqué, c'est plus simple de recommencer le document à zéro. Ça n'a pas de sens.
Ça dépend toujours de l'utilisation que tu en fais. C'est une nouvelle, c'était clairement plus puissant que Microsoft Windows Server. T'sais. Ça n'a pas gagné à la guerre. Il y avait des facteurs qui ont contribué à ça.
Le plus gros étant là, ce que j'appelais à l'époque, parce que je faisais beaucoup de nouvelles, là, du stealth marketing. On essayait de leur dire que ça ne marche pas. Mais...
Oui, mais c'était aussi le fait que les licences sur nouvelles, il fallait vraiment t'ajouter une licence. Il y avait de l'encryption là-dedans, ça te donnait un key et tout ça. Microsoft, ouais. Tu allais dedans, même si tu avais acheté 25 sièges, tu pouvais cliquer sur le plus et en rajouter tant que tu voulais, puis ça marchait quand même. Fait que là, éventuellement, c'est sûr qu'ils ont pris le marché, là, tout le monde le licençait pas. Mais c'est toutes ces affaires-là. Tu sais, Teams, vous avez entendu là, la fusée qui est rendue en train de faire le tour de la Lune, là,
Artemis. Hey, ça, c'est un désastre là, solide.
Teams a foiré, puis Outlook a foiré. Hey, le fait qu'ils utilisent cette marde-là sur un vaisseau.
Non, non.
Un vaisseau spatial!
Le fixe pas Linux sur un vaisseau spatial, là, on est attardé comme civilisation sacrement. What the hell?
Mais non, c'est Linux. Ils ont juste mis un skin de Windows pour avoir l'air un peu...
Deux Outlook en même temps. Qu'est-ce que c'est ça?
Ben oui.
Ah non, ça n'a pas de sens. Hey, parlant de trucs qui a beaucoup de sens, Jacques, parle-nous de notre sujet favori dans les dernières semaines. Fortinet.
Sponsored by?
Bon, moi, je m'en vais, je ne veux pas être impliqué là-dedans.
Oh non. Un autre, patente, un autre vulnérabilité, un score de 9.1, imagine, là, qui sort cette semaine. J'ai ri parce que notre ami Frédéric Bernard, justement, a posté ça hier, la journée de Pâques. On enregistre cet épisode de lundi Pâques. Alors hier, il pose ça comme il parle de la vulnérabilité majeure de Fortinet. Puis je dis, ah, écoute, protéger ton réseau avec Fortinet, là, c'est comme Pâques, hein? Faut que tu aies la foi et tu crois au miracle. Non, mais écoute, là, c'est ridicule. C'est une autre affaire dans le FortiClient IMS. C'est quoi le IMM Management Server? Puis encore là, un des gros problèmes. C'est non seulement la vulnérabilité de la part de Fortinet, un autre, mais encore là, c'est parce qu'on a des admins réseau qui exposent le port 443, l'interface de gestion de leur IMS sur Internet. Bravo!
Donc, c'est mal.
Et vocal sur ce que je pense de ces gens-là. Demandez-moi si j'ai pitié pour ces entreprises-là. Allez, demandez-moi. Mais non, c'est ça, c'est con, là. Mais un autre, là, il y a CISA aujourd'hui qui a sorti un bulletin dire que toutes les agences fédérales aux États-Unis doivent mettre la mise à jour d'ici vendredi. Ce que j'ai vu d'intéressant, puis c'est un de vous autres qui a envoyé ça dans le chat après-midi, là, je ne sais pas si c'est Patrick ou Steve, mais il y a un gars, je pense que c'est sur LinkedIn, qui dit «
Oui,
quand
c'est la, ça, la j'ai là, là.
C'est toi, hein?
C'est notre ami là, qui vient tout le temps au Hackfest, là, Johnny X-Mix, là, qui a posté okay. ça.
Un class action suit là, contre une poursuite collective contre Fortinet, parce qu'imagine les compagnies qui dépendent...
Ça serait le temps, là. Hein? Oui, ça serait le temps que ça arrive, là, c'est ça qu'il dit. C'est... Puis là, le problème qui soulève, puis c'est vrai, là, je veux dire, ça fait combien de CVSS 10 ou 9 que Fortinet a récemment? Mais ce qui lève comme point qu'il faut discuter, c'est qu'ils n'en font pas d'audits actifs de leur système. Ils évitent de faire des audits parce qu'ils savent que c'est un désastre en dessous. Tu sais, c'est plus que de la négligence, là. Puis que tu dis class action, c'est bien, mais là, on s'approche du criminel parce que dès que tu parles sécurité nationale, espionnage, voler des données, c'est inclus là-dedans, là. C'est eux la porte d'entrée qui protège ta porte d'entrée. C'est quoi le problème? Ah, oui, vas-y, mon Steve.
Non, on va faire l'avocat du diable deux minutes, là. Fortinet, c'est pas eux autres les pires.
Ah, ben là, non, on s'en
quand j'ai eu la conversation animée, il y a quelques mois, là, tu sais, eux autres, ils ont choisi de faire une divulgation proactive, puis c'est toujours laisser savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien avec leurs affaires. Tu sais, c'est un peu pour ça qu'ils sont victimes de leur propre politique, d'afficher constamment s'ils sont mal en point ou pas. Cisco, c'est les plus gros, là, que vraiment, là, eux autres, ils en sortent un champ de marge. Et quand on fait l'analyse aussi de Microsoft, combien ce qu'ils en sortent par mois, c'est une moyenne d'à peu près là, en haut de 80 tabarouettes des vulnérabilités qui sont corrigées. Puis là-dessus, là, les 0D là, commencent à augmenter de plus en plus. Mm-hmm. Comme on l'avait dit un moment donné, ben, la fenêtre pour corriger ça, si on n'a plus 2 mois comme là, 4 ans. On a 5, même en dedans d'une journée que la faille est connue.
T'as deux heures à peu près. Là.
Fait que ça, là, les edge devices comme ça, là, c'est certain que c'est des targets primaires, mais que justement, ils n'améliorent pas le contrôle de qualité avant de les déployer.
Puis ben, ça devrait être plus que du contrôle qualité. Là. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait un règlement que ça soit testé par tant d'entreprises, par tant de tests, par blablabla. Bla, bla, un nombre de fois X avant que ça soit public.
Qui va faire le check?
Peu importe, les hackers. Qui ont juste à dire 20 entreprises qui checkent, au moins ils vont faire 20 personnes différentes.
Peut-être, mais après ça, c'est comment tu vas dire la tu sais, un peu comme je trouve les bases de développeurs, il y a, tu sais, mettons, quand tu veux sortir une nouvelle version.
Je sais que
c'est
pas la solution.
Là?
J'ai dit, je sais que c'est pas la bonne solution ce que je dis. Il faut que ça soit au niveau du développement. Mais...
Je voulais juste te mettre collé en parallèle tout le réseau des développeurs, mettons, pour les Android et iOS. Là. Bon, ben voici, on travaille sa version bêta, version 2, c'est distribué dans la collectivité, puis après ça, le feedback revient, le consensus est fait, puis c'est envoyé. Je me suis déjà fait raconter que ça fonctionnait comme ça quand même dans les industries de télécom avec les Edge Devices.
Ouais.
Ils envoient ça, puis ils font le travail, c'est ramené, mais c'est au moment où ils rassemblent tous les bouts de programmes qui ont été faits à gauche et à droite, le contrôle de qualité est absent. Parce que la cadence pour le diffuser est quand même très rapide, puis que là, pour faire en sorte qu'ils vont se dépêcher de le mettre en disponibilité avant l'autre, puis. Il y a toute une question de marketing rassemblée à ça à la fin
de la journée. Oui, tout à fait. Puis tu dis Cisco, c'est dans les pires. Je veux dire, le concept de Cisco, c'est d'acheter tous les petits et de les merger dans leur outil. C'est un désastre au niveau du code. Là. Ça n'a aucun sens.
Mais il faut quand même rendre à Fortinet. Là, hein, on va être faire un
ben,
peu.
Ils le mettent public.
Quand on voit des compagnies qui exposent des interfaces de gestion publiquement, là, c'est plus la faute à Fortinet, là, ça. Là, on s'entend. Là.
Non, exactement. Non,
tout à fait. C'est supposé être restreint par IP, par VPN, par quelque chose.
C'est quand même un problème de les gens veulent quelque chose pas cher rapidement.
Ouais.
On cultive ce genre de culture de merde-là. Ça a déjà existé, le Red Book Certification, là chez décennies. Et puis, ça coûtait plus cher. Puis ton OS, ben, ou ta machine, ça coûtait plus cher. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, ça. Le monde ne se pose pas vraiment la question. Est-ce que c'est un produit qui est vraiment attesté par quelqu'un d'indépendant? Puis, y a-tu quelqu'un qui a fait ses checks and balances de s'assurer que les développeurs, c'est pas Claude AI avec deux chimpanzés dans le garage? Là, on voit le résultat. Le monde ne le fait pas.
Non, c'est sûr. Puis à ce temps, il y en a en maudit des singes suspendus partout parce que
Claude et Jen. Ben vite, là, qui vont se manifester à cause de ça. Là.
Ah oui, il arrive, ça sera pas long. Faut pas que tu nommes Claude autrement, ça marchera pas.
Ouais. Claudette, ça va filer comme ça, là.
Comment? Oh boy.
Claude va virer, il va finir Claudette, ne fais pas.
Mm. Claudette. Hey, vas-y, mon Steve, je te laisse aller sur toutes tes vulnérabilités. Puis commence par Blue Hammer, parce qu'elle fait parler un peu plus.
Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le fait que c'est intéressant qu'il y a un employé à l'intérieur de Microsoft, qu'il y en avait son casse dans la façon de faire la divulgation responsable, entre guillemets, d'une vulnérabilité. Et plutôt avoir des. Comment faire? Activer un peu la discussion à l'interne, puis mettre ça sur GitHub. Donc, le Microsoft Security Response Center, ils ont un employé là, qui était pour la deuxième fois en beau, s'il vous plaît, puis qui a amené ça sur GitHub. Il a dit, tiens, là, la vulnérabilité à l'interne, il n'y a pas de consensus quand est-ce qu'il faudrait le divulguer, mais c'est important, il faudrait que ça soit connu. Fait que lui, il a pris son initiative, puis il a amené ça dans l'espace public pour que vous et moi, on puisse savoir davantage qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais ça démontre encore une fois que la menace à l'interne ne tient pas à grand-chose. Autrement dit, on peut peut-être se faire avertir qu'il va y avoir quelqu'un éventuellement qui va faire quelque chose de pas éthiquement correct, on s'entend, mais ça démontre à l'interne que ça va pas bien. Puis après ça, bien lui, à date, ce qu'on peut lire de qu'est-ce que l'employé a laissé aller, ça démontre qu'il veut bien faire, il veut amener quelque chose de positif pour protéger l'ensemble de la communauté. Mais que l'entreprise, pour toutes sortes de raisons légales, on va juste nommer ça là, tiens, se retient. Puis on l'a vu dans le passé aussi, comment est-ce qu'il y a des agences gouvernementales même qui gardent des 0D juste pour eux autres, ils ne font pas de divulgation proactive pour se donner une capacité de faire des pénétrations de système, voire des cyberattaques à leurs avantages sans qu'il y ait de correctif, notamment notre PTA il y a quelques années. Fait que c'est des éléments comme ça qu'il faut se rappeler, qu'il faut quand même peut-être pas juste dire « faire plaisir à tout le monde », mais au moins faire en sorte que quand ça ne va pas, adresser le processus, adresser la grievance, comme on dit en anglais, la problématique, pour ne pas que ça vire à ce que ça soit une fuite d'informations.
Pas facile.
Et là, Pat, moi, je vais te challenger à soir. Là.
Ouais, vas-y.
Pourquoi le copilote, là, c'est les termes d'utilisation pas public, mais pour dire juste pour monsieur et madame tout le monde, bien, c'est du entertainment au lieu que le business, lui, soit correctement reçu, puis tu sais, ça soit sérieux.
Fait que pour toute entreprise qui utilise Microsoft Copilot pour faire des trucs d'entreprise, sachez que vous utilisez un système d'entertainment.
Non,
divertissement. C'est un système qui le dit dans la description. Un système de merde. Non, c'est de la merde. Microsoft, par défaut, Copilot est un des pires sur le truc. Là, ils mettent
Copilot,
ça.
Consommateur, c'est du entertainment, mais ça ne s'applique pas à Copilot 365.
C'est la même affaire. Non, mais il n'est pas considéré dans les bons du marché, là, s'il vous plaît.
Les avocats vont glisser ce ligne-là dans toutes les licences.
Ben oui, c'est comme Disney, là. Disney, tu te pètes un pied à Disney, tu as Disney Plus chez vous, tu as signé le contrat Disney Plus qui dit que tu n'as pas le droit de les poursuivre. Tu as bien beau te péter un pied ailleurs. On tombe là-dedans avec Microsoft un peu, mais c'est pas juste ça. C'est surtout qu'ils ne veulent pas te faire poursuivre pour les mauvais résultats. C'est aussi simple que ça, là. Pas d'avoir de...
Ben, contre l'utilisation...
Responsabilité. Ben, contre la mauvaise situation, mais contre la responsabilité de qu'est-ce que tu génères avec ça. Parce qu'on s'entend, là. Il est sorti des métriques, c'est plate, je sais plus son où, là. Les métriques sur GitHub, en 2025, il y a eu 1 milliard de commits, une affaire du genre, OK? Là, le premier quart de l'année vient de finir, on est à 4 ou 5 milliards de commits. Fait qu'on s'en va vers 25 milliards. C'est peut-être pas des commits, là, mais whatever, nombre de lignes, quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Fait que là, tout le monde s'en va générer des outils rapides, mais là, ça crée des problèmes parce que c'est des outils abandonnés. Il n'y a pas personne qui supporte ça. C'est comme générer en 20 minutes, c'est tout croche. C'est de la boîte, ça marche pas. Puis c'est qui l'a généré? C'est pas le gars, c'est l'AI. Fait que c'est qui le responsable? Personne, parce que même leur... Que ce soit Claude ou un autre qui mette ce terme-là, ça reste ça, les termes du AI, ça vaut rien. Il n'y en a pas de garantie de qui a fait quoi comme il faut. Je veux dire, je code en AI, ça fait 6 mois non-stop, puis non, c'est pas de la qualité, ça, là. Si tu gères ça un peu, tu croches, ça marche pas, là. Puis même si tu sais ce que tu fais, ça marche pas vraiment tout le temps. C'est ça l'affaire.
Mais ça le dit à chaque fois, là. À chaque fois, ça le dit en bas.
Oui, oui, c'est écrit en bas.
Parler de AI generated content may be incorrect, là. Ça, c'est pour toutes les LLM, là.
Toutes les LLM. En gros. Mais est-ce que quelqu'un lit les trucs du genre, mon joueur? Personne.
En gros, je peux dire que j'ai vu dans les derniers 6 mois une grosse amélioration dans Copilot 365.
Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils ont tout monté, là.
Ouais, ouais. Je le trouvais vraiment inutile et je trouve qu'environ depuis quoi, je veux dire, grosse amélioration là, dans les réponses. Je suis franchement étonné de ce qu'il fait là.
Ben, quand tu parles
à peu près deux. Ouais. Le 2 ans et quelques que j'ai codé, je me suis dit je vais utiliser les AI pour coder en fou juste non-stop. J'ai passé une semaine juste à faire ça pour tester première fois. C'est un désastre. Ça n'avait aucun sens. Ça générait des erreurs en loop. Pour le déboguer, je le donnais à un autre AI. Tu sais, je passais de Microsoft à Facebook, à Google, à ChatGPT, puis ils se déboguaient l'un l'autre. À cette heure, tu mets ça dans Cloud Code, puis ça marche. Mm-hmm. Ça s'est amélioré.
Là, je suis en train de me développer des applications malades.
C'est fou. Le problème, c'est ça. C'est que c'est pas du enterprise level. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Tu peux générer un logiciel enterprise là-dessus. Mais si tu n'as jamais géré de logiciel enterprise, tu vas générer un truc qui n'a pas de sens. Il ne scalera pas, il ne marchera pas comme il faut. Tu t'en rendras pas compte tout de suite. Tu vas t'en rendre compte que l'entreprise va faire faillite là, dans une couple de mois, là, quand tout va cracher. Mais il est là le problème. Le monde ne voit pas ça. Puis quand tu codes, il faut que tu codes fonction ou feature par feature, tout petit. Le monde dit, génère-moi une application de A, B, C. C'est tout croche.
Une semaine, je travaille avec, là, puis on développe morceau par morceau.
Exact. Mais ça, c'est la bonne manière.
Des fois, je lui demande de quoi, on peut-tu faire ça? Il dit, ben ouais, regarde, on va déjà chercher les données dans cette affaire-là. On les a déjà, regarde, on va juste mettre cette fonction-là dedans. Puis non, écoute, c'est freaking génial ce que c'est en train de me faire.
Si t'es nul avec AI, t'as juste l'air compétent, là, t'es pas compétent. Fait que t'as une base.
Ouais. Puis là, tu vois, cette semaine, j'avais un. La semaine passée, j'avais un panel à Humanitech. Il était sur l'ancien podcast, là, dans les Shameless Plug. C'était vraiment, vraiment cool. On parlait de ça. Puis sur le panel, il y avait moi, le hacker du stage. Il y avait un ancien gars de cirque qui gère l'humain avec l'AI sur les jeux vidéo, les Cirque du Soleil, whatever. Puis une madame qui génère des films en AI, en tout cas qui a essayé et qui n'aime pas ça. Mais tu sais, tout relié au domaine artistique. Et le point vraiment qui est ressorti de tout ça, c'est ce que tu viens de dire, Jacques. D'un, c'est de savoir comment l'utiliser, puis l'utiliser pourquoi, puis comment. Pas de générer des trucs, tu sais, trop. Puis le problème revient au final, au côté humain. Tu sais, quand tu génères une application là, avec une équipe, là, tu l'architectures, puis tu fais des plans. Puis tu fais une petite image qui dit, ben ça, c'est la page 1 qui appelle la page 2. Quand tu tombes en AI, là, tu fais comme oublier tout ça. T'es pas supposé, là, mais tu fais comme oublier tout ça. Puis là, tu dis, génère-moi tout ça. Puis ça génère tout croche. Mais non, faut que tu repartes de la base, puis du pourquoi.
Morceau par morceau, ça reste que c'est un outil, puis.
C'est un outil.
Tu sais, on est plusieurs dans la gang ici qui pourraient probablement générer ce qu'on a fait. Je vais faire des affaires, un outil de gestion Microsoft 365 là, pour mes clients. Puis. Il faut quand même savoir ce que tu fais, là. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai besoin, je sais c'est quoi mes attentes, je sais ce que devrait être le résultat quand je clique le bouton, je valide dans le tenant pour de vrai, ben oui, c'est là, toi, t'es drette. Hey,
faut que tu fasses faire les bons tests, pas juste fais-moi des tests.
C'est ça, là. Il faut que tu saches que ce que tu fais, là, quand même. C'est pas
juste dire... Fait que le gros problème qui a été discuté dans ce panel-là, c'est les juniors. Mm. Puis le monde à l'école. Les juniors plus étudiés. Si tu étudies avec l'AI ou tu donnes un AI à un junior, ça marche pas. Il sait pas faire toute la base que tu viens d'expliquer. Genre, il a aucune idée qu'est-ce qu'il est supposé de faire, c'est quoi le résultat qui est supposé arriver, puis l'expérience de comprendre c'est quoi la sécurité de X puis de B puis whatever, ou de développer la fonction. Fait que là, on se tire dans le pied parce que les écoles embrace AI. Hey, full AI, cool. Mais ils le voient pas comme un outil d'augmentation, c'est pour s'augmenter. Ils le voient pour utiliser l'apprentissage. Fait que là, on est en train de se tirer royalement dans les pieds.
Mais on va rentrer dans une zone où qu'on va avoir pendant des années. On va avoir des maudits cabochons qui sont sur le marché. Là, puis qui, d'après moi, c'est
qui se pensent bons. Puis oui, c'est pas de leur faute qu'ils se pensent bons. C'est qu'on va leur avoir dit que si tu utilises les AI de même, t'es bon.
Mais puis au final, il n'aura pas évolué. la façon qu'ils évaluent les étudiants n'aura pas évolué. Non. Fait que sur papier, ils vont avoir l'air bons. C'est juste que quand on couche comme ce chauve, ils sont nuls. C'est, ouais.
Non, ça va être terrible.
Ils sont pas bons.
Non, ils sont pas bons. Puis là, on tombe avec tout ce beau concept-là où ce que l'apprentissage doit être revu parce que ça disparaîtra pas, les AI.
Non.
Ça va changer, là, mais ça va s'adapter, mais ça ne partira pas. Fait qu'il faut changer le reste alentour. Il faut comprendre que c'est un outil de plus. C'est pas la magie, c'est juste un outil de plus. Mais pour que ce soit un outil de plus, il faut que tu aies la connaissance en dessous. Puis là, on n'est pas là pour tout. Là. C'est pour ça que ça génère de la slap, mon Steve, puis qu'ils mettent ces règlements de marde là dans ces termes de service-là.
OK, c'est dit.
Ouais, c'est ça. Yes, d'autres nouvelles à nous finir. Là, je voyais que tu parlais de la messagerie française Olvid.
Oui, juste pour être positif, Olvid, donc, est une application française, comme tu as dit, et qui va apporter une alternative à WhatsApp ou Signal, et qui, pour l'instant, ben, s'en sort très bien avec les évaluations indépendantes qu'elle a. Le bémol que je peux trouver en partant, ben, que je l'ai essayé déjà dans le passé, c'est qu'Olvid, pour qu'encore une fois, tu aies accès à toutes les fonctionnalités, c'est payant. Ça, c'est la grosse différence, que je vous dirais, avec Signal, parce que côté sécurité, les deux applications s'en tirent très bien, font un très beau travail, mais c'est ça la patente, là. Alors, oui, il y en a qui vont dire, enfin...
Signal, c'est financé en sacrement par en arrière, par bien des entreprises, puis de l'armée, puis blablabla, il y a ça, là. Ouais.
Exact, mais en même temps...
C'est pour ça que c'est gratuit.
Il reste que c'est une alternative à ce qui n'est pas américain pour ceux qui sont anti-américains. Ouais. Je veux dire, c'est ça mon point. Sure. Fait que, mais il reste toujours bien. Est-ce que Olvid et Signal sont mieux sécuritaires, sont plus sécuritaires, pardon, que WhatsApp? Définitivement. WhatsApp, je vais continuer à démoniser ça parce que c'est à la solde, c'est Meta qui est derrière. Puis quand il vous dit qu'ils ont une sécurité confidentielle point à point, end-to-end, il y a encore des. À chaque mois, on entend parler qu'il y a des passe-passe qui sont patchés. Fait que. J'ai pour mon dire que non, je ne participe pas à aucune conversation avec Messenger et ou WhatsApp pour ces raisons-là.
Francis.
Et moi, je vais renchérir un petit peu là-dessus. C'est drôle, ça fait du chemin sur ce que Steve disait tantôt. Quand on parle de protection des données, hein, les données en utilisation, en transit, au repos, hein, c'est comme les trois états dans lesquels les données sont. Signal, si je compare par exemple avec Olvid, au niveau des données qui sont en transit dans un réseau où on communique, les deux sont à peu près le même niveau de sécurité. Par contre, Signal, localement sur votre téléphone, c'est poche à mort. Et ça, là, ça n'en fait que les gens ne comprennent pas, là, mais la plupart des outils d'informatique judiciaire, je vais aller dire grand public, là, pas des affaires là, de la NSA, des affaires secrètes de la défense, là. Les affaires sont utilisées par des corps de police réguliers, qui sont utilisés même dans des compagnies. Les outils d'informatique judiciaire sont capables, quand ils attaquent votre téléphone, de déverrouiller votre téléphone. Et si vous avez des conversations Signal, vos conversations Signal, elles sont accessibles. Il n'y a rien de c'est chiffré, mais c'est parce que la clé, on est capable de la trouver dans le téléphone. Fait que c'est réglé, on a accès à vos données. Tandis que Olvid, la dernière fois que j'ai vérifié, une couple de mois, il n'y avait pas encore de mécanisme forensique grand public qui permettait d'aller récupérer les données sur un téléphone où il y avait Olvid d'installer. Là. Donc, peut-être juste cette petite nuance-là, mais je suis d'accord avec Steve, là, WhatsApp, on touche pas à ça, là, tant qu'à ça, envoyer un fax. Là.
Okay, la nuance, c'est un outil comme Signal, c'est très populaire. Fait que c'est un peu comme pourquoi il y a tellement de bugs qui sortent sur Windows, ben parce que c'est populaire.
Et voilà.
N'est pas encore connu. C'est sûr que la clé, il doit en avoir une clé, elle est à quelque part. Puis probablement qu'il y a quelqu'un qui va développer un outil pour aller lire ces données-là sur ton téléphone.
Ben, présentement, ça ne doit pas juste valoir la peine. C'est pour ça. Ce qui était payant, c'était de craquer Signal sur les téléphones. Parce que ça, on pouvait en vendre beaucoup. Là, j'imagine que Olvid, éventuellement, ce sera l'autre, effectivement. Là. Donc, à suivre.
Yes, ben merci monsieur, merci Eric d'être joint à nous. On se revoit tous ou presque tous à ATSEC puis à Channel Next.
À Channel Next, ben oui.
Yes. Ça fait de la fun. Ben oui. Bonne semaine. Richer n'est pas là, fait qu'il faut peser sur le piton un peu.
We're in out.
There you go. Il faudrait que je le mette un meilleur son. Il est comme coupé au début, ça marche pas.
We're in out.
Ah, le bleu, ben voilà.
Pas speed. Je sais pas des fois, il
est mieux ça.
Yes. Alright, on se voit bientôt.
Salut.
Bye tout le monde.
The French Connection.
J'en ai même pas mis de nouvelles, là. Désolé.
Ouais, on va se cruncher parce qu'il est déjà dans le buffet.
Je t'enlève de la liste, si. Ça ne mérite pas d'être dans la liste.
Là, tu me fais honte là, devant la visite, si, là.
Quelle visite?
Ben, Eric.
Eric, c'est de la visite, en vrai.
Pas d'intrus, là. Avec mon porn couch en arrière.
Ah, ton porn couch, quoi.
Two times.
Non, mais ça fait vraiment, il y a un bord de danseuse. Regarde, il y a la TV pour la porn, il y a le love couch, il y a le guichet automatique pour la personne à débrouiller. Elle sort de l'argent pour payer la danseuse.
Il manque juste la pole.
Ouais. T'ajoutes un pole dance là-dedans, t'es en business, là.
Peut-être que Philia sur le guichet automatique, ça fait weird, là.
Mm-hmm. Une chose est certaine, si jamais Eric m'invite là, tu sais, c'est clair, je ne mets pas ce petit divan là.
Peut-être une découverte, ouais.
Ça risque d'être quand même.
French Connection.